RCF.
Vous êtes sur RCF, très belle soirée le 18-19 en région. Jean-Pierre Benoît, Alexis Claudretz.
Bonsoir à toutes et à tous ce mercredi soir, bienvenue dans le 18-19 en Champagne avec Jean-Pierre Benoît. Bonsoir Jean-Pierre.
Bonsoir Alexis, avec bien sûr des invités habituels qu'on va présenter dans un instant.
Effectivement, Fernand Tavares à nos côtés pour décrypter l'actualité politique du moment. Fernand, bonsoir.
Bonsoir.
Et puis bien entendu, avec tout, on le retrouve dans une poignée de secondes, Robert Reverger pour sa chronique habituelle en un mot. Et puis juste après, on a bien sûr le journal régional avec vous, Alexis. Et puis ensuite, deux invités. On va prendre la direction des Ardennes, mais auparavant, on fera une petite halte dans la Marne.
Effectivement, on aura des tendances diocésaines, notamment avec Mgr Étienne Véteux, évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes, pour évoquer comment il vit le carême. Vous le savez, on interroge les prêtres.
Absolument.
Les religieuses, les sœurs notamment du diocèse de Reims et des Ardennes à 7h40 tous les matins sur RCF France Ardennes. Nous serons aussi avec Gérard Thiriet, conférence sur la passion selon saint Matthieu de Bac. Ça sera à retrouver en deuxième partie d'émission. Tout comme le maire qui vous parle, ça sera à 18h20, Bernard Veller, qui est maire de Villers-Allerand dans la Marne.
Voilà, et tout de suite, sans plus attendre, on retrouve bien entendu Robert Reverger. Robert Reverger, bonsoir.
Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir.
Alors,
à tous.
Votre émission consiste à prendre un mot et à essayer de nous donner toutes ses dimensions. Et en un mot aujourd'hui, c'est le mot
cohésion.
Cohésion. Alors ça fait plaisir certainement à Fernand Tavares qui est avec nous, parce que la cohésion, on en a besoin dans notre société, et on va en parler en particulier à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Ah oui, il suffit d'écouter les arguments politiques des uns et des autres. Il y a de la cohésion dans l'air sur certaines choses, mais malheureusement, il y a beaucoup de réserves.
Alors Robert, cohésion, c'est le mot d'aujourd'hui. Un mot que l'on entend souvent accompagné de l'adjectif social, cohésion sociale.
Oui, l'expression est employée sans doute pour contrebalancer l'expression de M. Jacques Chirac, fracture sociale, qu'il a prononcée à la fin du siècle dernier.
Alors, quelle est l'origine du mot cohésion en français ?
Eh bien, en latin du Moyen-Âge est apparu le mot cohésio à la suite du verbe coarere, et ce verbe est formé du préfixe cum, qui signifie avec, comme vous le savez, et arere, verbe auquel nous devons, par exemple, adhérer, et le nom adhésion, avec toujours l'idée d'attachement, de fixation, qui est opposée à celle de rupture et de division.
Donc ce qui est attaché, pour les Romains, ce qui est fixé. C'est un peu ça la cohésion.
C'est ça, c'est fixé, ou encore, comme pour nous, on pourrait dire coincé ou arrêté. Alors la petite phrase latine qui est « arere et res » signifie alors « la chose n'avance pas, l'affaire est coincée ». Cette petite phrase a donné « hésitatio ». L'hésitation.
Alors revenons aux mots et aux termes de cohésion. Certains hésitent sur la possibilité d'obtenir la cohésion sociale.
Bien sûr, adhésion et cohésion sont ressentis comme des buts souhaitables, bien entendu, mais cette hésitation à les croire possibles ne s'explique pas, comme on le pense souvent, par des raisons de manque de volonté ou encore de tergiversation pour leur donner vie. Bien
alors,
sûr.
Pour quelles raisons cohésion sociale ?
Eh bien, parce que tout simplement, nous manquons de moyens financiers qui soient adaptés et qui soient cohérents.
Alors, on en a parlé, et celles et ceux qui nous suivent le mercredi le savent bien, lors de notre chronique où nous avons abordé la crise du logement, vous venez d'employer le mot cohérent. Est-ce que les vocables cohésion et cohérence ont-ils un sens proche, voire un sens commun ?
Ben, on pourrait le croire, bien sûr, mais ce n'est pas du tout le cas. Si le mot cohésion, comme nous l'avons dit, date du Moyen-Âge, le mot cohérence, lui, ne date que du XVIe siècle.
Alors justement, quand on parle cohérence, quand on parle XVIe siècle, quel sens avait-il à l'époque ?
Eh bien, à l'époque, il s'appliquait alors au domaine des sciences, puis, plus tard, à l'époque révolutionnaire, il s'appliqua plus globalement à un raisonnement, à une pensée ou un projet qui avait un caractère logique, un caractère équilibré. Alors par exemple, depuis lors, le cas échéant, on célèbre la cohérence d'une politique ou au contraire, cela peut parfois arriver, on en stigmatise les incohérences.
Donc la cohésion, c'est quand même autre chose.
Oui, cela s'applique à un groupe humain qui est soudée et qui ne risque pas d'éclater, par exemple, en diverses communautés ou en classes hostiles.
Celle dont parlait et dont théorisait un certain Karl Marx au XIXe siècle.
Tout à fait. Ces communautés sont tellement inégalitaires qu'elles ne peuvent pas voir le monde, la vie, la société, bien sûr, de la même manière.
Et donc ne peuvent pas s'entendre, ne peuvent pas faire preuve de cohésion sociale.
Hélas.
Alors une question se pose, Robert Revergée. Si l'on ne peut obtenir la cohésion sociale, comment éviter les affrontements, parfois violents, entre les classes sociales?
Théoriquement, cela serait tout à fait possible, mais dès lors, de notre plus tendre enfance, on nous apprenait la tolérance qui, à défaut de se comprendre, permettrait de coexister, ou mieux, de cohabiter.
Alors, c'est pas toujours, mais là, ce soir, on va faire un petit peu de philosophie. Qu'est-ce qu'être tolérant? Que sous-entend la tolérance?
Alors là, c'est une vaste question. Se montrer tolérant, c'est souvent difficile. Être tolérant, c'est faire preuve de bienveillance, c'est faire preuve de bonté, parfois. C'est faire preuve de mansuétude, d'indulgence, de compréhension. C'est ne pas interdire alors qu'on le pourrait, c'est respecter les opinions, les croyances, les différences, les capacités et surtout la liberté d'autrui.
Voilà en effet qui n'est pas impossible, mais dont on dit souvent qu'il est difficile de faire preuve. Alors, vous voulez peut-être ajouter quelque chose, Robert?
Si vous me le permettez,
je vous en prie, Robert, allez-y.
Alors, j'y vais. Pour avoir toute son efficacité, entre guillemets, afin d'engendrer de la cohésion sociale, la tolérance se doit impérativement d'être mutuelle, d'être réciproque, parce que si elle est à sens unique, elle n'a guère de résultat.
Alors une dernière question, c'est ce qu'on vous pose en général à la fin de votre chronique, à propos du mot cohésion, a-t-il un contraire ce mot ?
À la Révolution française, oui, on parlait d'incohésion, mais le mot n'est plus employé.
Le mot de la semaine prochaine ?
On va changer un peu de domaine, on va parler de football.
Ah, vous serez dans l'actualité sportive.
Voilà.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Jean-Pierre.
Oui, on va tout de suite, avant de retrouver le maire qui est avec nous aujourd'hui, retrouver Fernand, parce qu'on vient de parler de cohésion. Oui. Est-ce que cet après-midi au Sénat ou à l'Assemblée nationale, on a vu d'ailleurs l'intervention de quelqu'un qu'on connaît dans notre région, c'est Catherine Vautrin.
Tout à fait.
Est montée, c'est pas au perchoir, mais elle est montée vraiment interpellée par les sénateurs.
Elle a été interpellée à la fois par les sénateurs deux fois aujourd'hui, hier une fois à l'Assemblée nationale, c'est sur la fin de vie, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Sauf si vous souhaitez qu'on parle de l'Ukraine pour commencer, parce que à la minute même où nous parlons, débute effectivement le débat au Sénat, après celui de l'Assemblée nationale hier. C'est intéressant peut-être d'en revenir là-dessus à l'heure où nous parlons, parce que entre ce qui s'est dit hier à l'Assemblée nationale et les réactions russes à ce qui s'est dit hier à l'Assemblée nationale, ceci peut expliquer cela au Sénat. D'abord, ce que ne souhaite pas, par exemple, le Parti républicain du Sénat, c'est que le président de la République soit à la une de cette affaire-là et prenne tout sur lui. Ce qu'a dit, à 16h30 exactement, à la fin de la séance des questions au gouvernement du Sénat, le président du groupe LR, M. Retailleau, il a dit « Nous, on est d'accord au Sénat, on votera le soutien à l'Ukraine ». Avec les aides qu'on doit leur apporter, notamment en matière financière, pour qu'ils aient davantage d'armes pour se défendre. Mais en aucun cas, notre vote, notre appui va à Emmanuel Macron. Il ne va qu'aux Ukrainiens.
Alors cet après-midi, une question un peu locale. Les parlementaires de notre région, que ce soit des Ardennes ou de la Marne, ne sont pas directement intervenus par des questions au gouvernement?
Pas là-dessus. Néanmoins, certains ont toujours, comme la semaine dernière, le député des Ardennes que vous connaissez bien, est
Pierre
intervenu.
Cordier.
Oui, sur l'Ukraine, on a encore eu une allusion aux céréales ukrainiennes qui bénéficient quand même de droits de douane supprimés de façon à les aider. Il y a encore une question là-dessus. C'est vrai que ça tombe mal parce que à l'heure où nous parlons de donner les moyens pour se défendre à l'Ukraine, cette affaire-là, c'est peut-être mineur. Néanmoins, on y revient un tout petit peu pour dire attention, les agriculteurs, en particulier dans les Ardennes, souffrent et il y a une petite conséquence de ce cadeau à l'Ukraine sur nos agriculteurs des Ardennes.
Comme quoi l'international peut jouer ici, localement, dans nos Ardennes ou dans la Marne. On y revient tout à l'heure après le journal de 18h30, information régionale. Je crois qu'on va faire un petit détour par de l'actualité locale.
Effectivement, Jean-Pierre, à 18h20, après Robert qui vous parle, après Fernand qui vous parle, c'est un maire qui est en ligne avec vous. Avec qui êtes-vous d'ailleurs, Jean-Pierre?
Notre maire aujourd'hui est Bernard Veller. Il est maire de Villers-Alleran. Bernard Veller, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, monsieur le maire, est-ce que vous pouvez nous présenter la commune de Villers-Alleran?
Bien sûr. Villers-Alleran est une commune de 950 habitants qui se trouve sur la RD 951 entre Reims et Épernay, à environ 10 km de Reims. Disons qu'on est à 15 minutes environ du centre de Reims.
Alors ça prouve une proximité. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quels sont les habitants de Villers-Alleran? Il y a beaucoup de gens qui sont agriculteurs, viticulteurs, des retraités, des jeunes qui s'installent. Comment est la population?
Bon, c'est une commune qui est très attractive parce que c'est ce qu'on appelle maintenant une commune urbaine. C'est une population essentiellement qui travaillent soit sur la ville d'Épernay, soit sur la ville de Reims, et nous sommes plutôt ce qu'on appelle une commune résidentielle. Mais au sein de la commune, il y a quand même des activités agricoles. Le territoire de la commune couvre environ 12 hectares, et sur ces 12 hectares, il y a 45% de la surface qui est en terre agricole, et 45% qui est en surface forestière. Les terres agricoles comprennent à la fois du vignoble et des terres de culture.
Donc on peut dire, monsieur le maire, que des habitants, il y a quand même forcément des agriculteurs et des viticulteurs en nombre assez conséquent, non?
Alors tout à fait. Les agriculteurs, il y a deux grosses exploitations. Il n'y a plus que deux exploitations agricoles qui emploient un peu de personnel. Mais il y a surtout une surface de vigne qui est importante. Alors nous ne sommes pas une commune viticole comme d'autres communes avoisinantes, mais nous sommes une commune où il y a quand même une surface de vigne qui est importante et il y a des exploitants qui font leur champagne et qui le vendent. On est sur la route du champagne. On est à la fois sur la RN 951, qu'on appelle la voie de la liberté, et sur le CD26, qui est la route du champagne.
Alors évidemment, monsieur le maire, on pose souvent la question, parce qu'on l'avait vu au moment du Covid, qu'il y avait des personnes qui habitent Reims ou qui habitent des villes, ils sont bien contents de se retrouver quand même avec une maison où il y a peut-être un jardin ou un petit terrain pour pouvoir respirer. Est-ce que vous avez vu, ou est-ce que c'est possible, de venir à Villers-Alleran, d'acheter quelque chose? Est-ce que vous avez des jeunes ménages, par exemple, qui s'installent à Villers-Alleran?
Alors, nous avons une population qui est ancré sur le village depuis pas mal d'années, mais nous avons eu du développement grâce à un lotissement de 70 logements, dont 24 logements qui ont été construits par Prince Habitat, qui est un bailleur social, et on a 11 logements sociaux dans un immeuble au cœur du village qui ont été construits par un autre bailleur social qui est Plurial. Donc il y a des ménages qui sont bien implantés dans le village depuis très longtemps et des jeunes ménages qui ont pu faire soit de la location, soit de l'acquisition de logements.
Mais vous, Bernard Veller, vous êtes maire depuis combien de temps? Est-ce que vous avez été, avant d'être maire, dans le conseil municipal, adjoint? Est-ce que vous aviez fait tout un parcours et est-ce que vous étiez vous-même originaire de Villers-Alleran?
Non, je ne suis pas originaire de Villers-Alleran. Je me suis installé à Villers-Alleran en 1975, parce que je travaillais à Reims et que j'avais une proximité qui me permettait d'être tout près de mon lieu de travail. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de communes urbaines. Ça permet de facilement, grâce au réseau routier qui est très bien desservi entre Reims et Villers-Alleran, d'habiter tout proche. Mais on est quand même à la campagne, on a une qualité de vie qui est extrêmement agréable, un endroit très arboré, et la devise de la commune, c'est entre vignes et forêts. Donc il y a à peu près, je vous ai parlé tout à l'heure, de 45% de surface agricole et viticole, mais il y a aussi 45% de surface forestière, dont une partie de la forêt domaniale du Chêne à la Vierge, qui est une forêt qui est classée forêt d'exception.
Alors ça, c'est formidable. On peut encourager, bien sûr, les gens à... D'ailleurs, les gens qui se promènent, souvent, ils vont dans ces villages, hein, dans les alentours de Reims. Et monsieur le maire, est-ce que vous avez un projet, ou des projets en cours, ou des projets qui se profilent pour les années futures, avec l'Huillerre Alerans?
Bien sûr. Alors, je vous disais déjà que je suis maire depuis la période Covid. C'est mon premier mandat. J'étais au préalable conseiller municipal dans la mandature précédente, pendant les 6 ans précédents, donc j'ai un peu l'expérience de la vie communale, mais je n'avais pas voulu m'investir davantage dans la marge de la commune en raison de mes activités professionnelles. Et depuis que je suis en retraite, j'ai pris plus de responsabilités puisque je suis devenu maire. La période Covid, bon, n'a pas été très facile pour se mettre en route, pour mettre en route une équipe municipale, mais il y avait au sein de l'équipe que je dirige, de nombreux conseillers qui étaient des conseillers sortants. Donc il y avait une continuité au sein de l'équipe municipale.
On s'aperçoit aussi, ça c'est une petite question qui me vient à l'esprit, c'est que finalement, une commune comme Villers-Alerans, quand on est maire, j'allais dire c'est presque un métier à plein temps, et que ça doit être très très difficile pour des gens, et ils se plaignent parfois, les maires, quand ils sont en activité professionnelle, de pouvoir vraiment être maire pleinement.
Vous avez tout à fait raison. J'imagine mal avoir une activité professionnelle, ou alors il faut qu'elle permette de laisser beaucoup de temps libre, parce que, comme vous le dites, je suis pratiquement maire à plein temps, tous les jours de la semaine, y compris le week-end, parce que le travail ne s'arrête pas le week-end, même s'il est moins intense. Et je n'ai jamais voulu m'investir pleinement dans une activité municipale sans en avoir le temps, parce que c'est extrêmement chronophage. Et les réunions ont lieu dans la journée, les réunions ont lieu le soir, et il faut être présent sur sa commune pour répondre de façon immédiate et quasi
permanente,
jour après jour, aux demandes des habitants.
Alors évidemment, Bernard Veller, le temps passe très vite, il nous reste une minute et demie à peu près, mais on aura l'occasion, si vous l'acceptez d'ici le mois de juin, de refaire avec vous une autre émission, parce que nos auditrices et nos auditeurs connaissent bien Villers-Alerans, ils connaissent bien cette région entre Reims et Épernay, mais simplement d'un mot, au niveau des projets, est-ce qu'il y a quelque chose qui est, j'allais dire, qui est en train de mijoter, comme on dit?
Bien sûr, il y a un grand projet, c'est la traversée de Montchenot. Nous y travaillons déjà depuis 2 ans, ça faisait partie des engagements de notre mandat, à savoir la réhabilitation et l'embellissement de la traversée de Montchenot. C'est un axe extrêmement important entre Reims et Épernay, puisque c'est la porte d'entrée du parc naturel régional de la montagne de Reims. C'est un des premiers villages traversés qui est au sein de la mission UNESCO. Nous avons fait l'enfouissement des réseaux électriques, nous avons rénové les réseaux d'eau usée et d'eau pluviale, et nous allons, dans les prochains mois, attaquer la requalification des trottoirs, des places de stationnement, des endroits végétalisés, de façon à ce que ce ne soit pas une traversée ordinaire, mais que la traversée de Montchenot soit quelque chose d'agréable, aussi bien pour les habitants de la commune que pour les gens qui le traversent tous les jours, ou même les touristes, parce que faut pas oublier qu'il y a 18 000 véhicules jour qui traversent la commune.
Oui, parce que pour les auditrices et les auditeurs des Ardennes, par exemple, qui ne savent pas, il y a Villers-Alerans et Montchenot. Vous citez Montchenot alors que c'est Villers-Alerans, mais ça marche ensemble, plus ou moins.
Voilà, alors le hameau de Montchenot fait partie de la commune de Villers-Alerans. C'est sur le même territoire communal. Il y a le bourg qui s'appelle Villers-Alerans, et le hameau s'appelle Montchenot. Et Montchenot est encore plus connu de Villers-Alerans parce qu'il est situé sur la RD 951.
Oui, et puis on voit une maison de retraite, souvent quand on monte vers la route d'Épernay. D'ailleurs, il faut faire attention, hein, il y a des radars, hein, dans le secteur.
Exact. On a fait installer il y a quelques années un radar. C'était à la demande des riverains, parce que ça a permis aux riverains d'avoir
une tranquillité
un petit peu plus importante au niveau de la circulation et de la vitesse.
En tout cas, chose promise, chose due, on le fera dans quelques semaines si vous l'acceptez avant le mois de juin, Bernard Veller, de revenir sur Villers-Allerand, dont vous êtes le maire. Merci en tout cas d'avoir été avec nous et à très très bientôt sur RCF. Au revoir.
Je vous remercie, à très bientôt.
On aura bien sûr l'occasion de retrouver un maire dans l'émission « Votre maire nous parle ». Ce sera demain à midi sur RCF Reims-Ardennes. Et demain matin, notre invité sera Laurent Devis. Il nous parlera d'une famille, de la congrégation de Jésus, cœur de Jésus. On aura l'occasion bien sûr d'en reparler. En attendant, à notre pendule, toujours à l'heure, il est 18h30, l'information régionale avec Alexis Claudretz qui est avec nous en direct.
Les titres de ce mercredi 13 mars, alors que depuis la rentrée des vacances de février, plusieurs villes de France ont commencé à expérimenter le port de l'uniforme à l'école. À Reims, cette expérience débutera au mois de septembre. Véronique Marchais, première adjointe de la ville, précisera comment tout cela s'organise progressivement. La Marne fait partie des 29 nouveaux départements retenus pour expérimenter le RSA sous condition. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement le 1er mars. Plus de 1700 bénéficiaires marnais seront concernés par cette expérimentation.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Avant de développer ces titres, on a appris ce matin la mort de Philippe de Gaulle, fils du général Charles de Gaulle. Il avait 102 ans. Son histoire est quelque part un peu liée aux Ardennes, comme l'a relevé Patrick Faustier, vice-président d'Ardennes Métropole, sur son compte X, anciennement Twitter. Une grand-mère ardennaise le rattache à notre département. Plusieurs noms de rues de Charleville-Mézières évoquent ses aïeux, Corneau, Deville, Forêt. Nos confrères de l'Ardennais proposeront une explication généalogique détaillée sur ce qui relie l'amiral de Gaulle et celle qui était appelée Tante Yvonne, née Vendroux. Ici d'une famille de notaires ardennais dans leur édition de demain jeudi. Jean-Pierre, quelques explications.
Oui, et puis je vois que ça vous intéresse Alexis, je comprends pourquoi, parce que quand on dit la famille Vendroux, il y a bien sûr le petit-fils, enfin qui est le neveu du général de Gaulle, Jacques Vendroux, bien connu et qui collabore à Europe 1 avec Cyril de la Morinerie, et puis aussi parce que il était très attaché aux Ardennes, en tout cas à la famille de Gaulle, puisqu'ils allaient à la ferme de Fagnon, qui était le point de rassemblement de toute la famille. Avez-vous même connu, Fernand, l'amiral de Gaulle au Sénat ?
Alors, je l'ai connu quand j'étais au Sénat, effectivement. À l'époque, les sénateurs étaient élus pour 9 ans. Il était président de l'amicale gaulliste du Sénat. Il est arrivé, c'était Alain Poher, le président du Sénat. Il est allé après aux côtés de René Monory et puis Christian Poncelet, RPR historique.
On aura l'occasion de revenir sur tout cela.
Il s'exprimait pas beaucoup, hein, les interviews. Voilà, il voulait pas passer à la télé, mais par contre, il ne refusait pas de discuter avec les journalistes de choses et d'autres.
18h32, la suite du journal, Alexis Claudretz.
Depuis la rentrée des vacances de février, certaines villes de France volontaires ont commencé l'expérimentation du port de l'uniforme à l'école. La ville de Reims s'est portée candidate pour réaliser l'expérience également, mais ça ne débutera qu'à la rentrée de septembre dans la Cité des Sacres. Véronique Marchais, première adjointe déléguée à l'éducation, à l'école durable et à la jeunesse, précise la volonté de la municipalité rémoise.
Je crois qu'en France, on fait beaucoup de débats autour de l'uniforme alors qu'on ne l'a vraiment jamais testé, en tout cas dans les écoles publiques. Et ça relève peut-être un peu de l'idéologie ou du dogme, voire du fantasme. Et en fait, avec le maire de Reims, Arnaud Robinet, on s'est dit que ça valait sûrement la peine de tenter, puisque ce qui est proposé, c'est une expérimentation sur 2 ans. Et justement, pour peut-être avoir un avis un peu plus objectif et objectiver l'intérêt de l'uniforme, puisque aujourd'hui, en France, on n'a pas le recul des États-Unis ou de la Belgique. Donc, il nous a semblé intéressant d'entrer dans cette expérimentation, justement, pour avoir peut-être un peu des choses concrètes, et puis éviter que chacun, selon ses idées diverses et variées, se positionne en expert, et qu'on aura des choses objectives à justifier au bout de ces 2 ans. Ça, ce sera le travail d'évaluation qu'aura à faire l'éducation nationale, hein, puisque je rappelle que ça se fait en partenariat avec l'éducation nationale.
On note que dans certaines écoles privées rémoises, le port de la blouse et de l'uniforme sont déjà mis en pratique, comme à Saint-Michel, où depuis 2020, les élèves de la petite section OCE1 sont tous habillés de la même façon. Les partisans de l'uniforme à l'école pensent qu'il permet de lutter contre les discriminations et de transmettre des valeurs de discipline, de respect, d'égalité. Ses opposants estiment qu'il empêche l'expression de la personnalité des jeunes et que c'est un coût supplémentaire pour les familles. Selon un sondage réalisé en décembre 2020, 2023. Au niveau national, près de 7 Français sur 10 sont favorables à la tenue unique à l'école, une tendance qui semble se confirmer à Reims, si l'on en croit Véronique Marchais.
Les familles qu'on a pu rencontrer ou qui ont été sondées par différents médias répondaient très favorablement à cette expérimentation. Donc il a fallu quand même que nous trouvions sur Reims 5 écoles. On a 5 circonscriptions. Je souhaitais, en lien avec l'éducation nationale, que nous trouvions sur la base du volontariat des équipes éducatives 5 écoles et 5 écoles répartis dans la ville de manière à ne pas donner un axe précis ou stigmatiser plus des quartiers ou une population que d'autres. Donc nous avons trouvé 5 écoles qui ne sont pas toutes identiques de manière à avoir des résultats un peu divers et variés.
Des propos recueillis dans l'émission « Je pense donc j'agis » animée par Melchior Gormand sur le réseau national de RCF. Chaque enfant scolarisé dans une école qui participe à l'expérience se verra remettre un kit d'une valeur de 200 euros financé intégralement par l'État et les collectivités qui devrait contenir 5 polos, 2 pulls et 2 pantalons. L'expérimentation sera pendant 2 ans évaluée méthodologiquement par des experts sur des critères tels que le climat scolaire, les résultats académiques ou encore l'atmosphère en classe. Si les résultats sont concluant, le port de l'uniforme à l'école pourrait être généralisé. Dernières heures pour formuler vos vœux sur la plateforme Parcoursup ce jeudi 14 mars. Les élèves en terminale et étudiants en réorientation auront ensuite jusqu'au 3 avril pour compléter leur dossier et formuler leurs vœux de manière complémentaire, c'est-à-dire de compléter les dossiers. L'Institut catholique de Paris Campus de Reims a enregistré officiellement le barreau de Reims parmi ses partenaires. Emmanuel Petit, recteur de l'ICP, et Stéphanie Colmerienne, vice-bâtonnière de Reims, représentant la bâtonnière Stéphanie Van Oostend, ont signé une convention de partenariat pour une durée de 3 ans. Ce partenariat, qui contribue à la promotion du droit, s'inscrit dans le projet de l'Institut catholique de Paris de permettre au plus grand nombre d'accéder au savoir ainsi que de participer à l'attractivité du territoire rémois. Ils étaient 18 départements français à tester ce dispositif depuis un an. Désormais, 29 autres territoires vont les rejoindre. Au total, 47 départements sont engagés cette année pour expérimenter le versement du RSA sous condition. Pour les bénéficiaires concernés, le versement de cette prestation sociale est conditionné à un minimum de 15 heures d'activité hebdomadaire. Parmi les départements, la Marne et les Ardennes. Pour Mario Rossi, vice-président du conseil départemental de la Marne chargé de l'insertion, l'expérimentation est dans la continuité des objectifs du département.
Ça fait maintenant 4 ans qu'on a accentué nos actions vers l'insertion dirigée vers l'emploi, d'une part. D'autre part, c'est le Premier ministre qu'on a envoyé à Attal avait annoncé qu'au 1er janvier 2025, ce serait étendu sur le territoire. Donc, toute expérimentation est toujours intéressante pour éviter de rater les choses et de tenir compte de ce qu'on aura expérimenté.
Mario Rossi précise que cette expérimentation concerne principalement le Grand Reims.
Le principe est d'expérimenter sur un petit territoire tout est relatif, en tout cas, surtout le département de la Marne, ce serait beaucoup trop lourd pour une expérimentation. Donc là, l'expérimentation ne va pas concerner le secteur de Châlons, mais un secteur de la ville de Reims, et du Grand Reims, qui va comprendre à peu près 1700 personnes inscrites comme bénéficiaires du RSA sur le quartier sud de Reims, quartier de l'Europe, mais aussi un peu plus d'une trentaine de communes autour de Reims. Donc un bassin d'emploi à la fois urbain et rural.
L'État va accorder au département des moyens financiers afin d'embaucher de nouveaux chargés de mission.
Des chargés de mission, enfin des encadrants supplémentaires pour accompagner donc encore plus profondément que le faisait des personnes avec comme objectif évidemment l'emploi. Chaque personne va devoir accompagner 50 bénéficiaires, donc tout ça en collaboration bien entendu avec France Travail, hein, puisque c'est France Travail qui a la main avec les départements. Le but, c'est vraiment de faire du cousu humain et de remettre des situations vers l'emploi à travers la formation, à travers de la mobilisation, à travers des dispositifs qu'on avait déjà mis en place, mais en les accentuant au plus près des bénéficiaires avec cet objectif clair de ramener les gens en situation d'emploi ou de socialisation pour les gens qui sont encore éloignés, qui ont besoin d'un accompagnement un petit peu en amont.
Mario Rossi en ligne avec Christopher Fausten de RCF Cœur de Champagne. Le dispositif sera généralisé à l'ensemble du territoire français en 2025. Vous pouvez sur cette thématique réentendre également Jean-Marc Rose, président du conseil départemental de la Marne, qui était l'invité de Jean-Pierre Benoît. C'était jeudi dernier. Rendez-vous sur le site rcf.fr dans la rubrique programme en sélectionnant votre radio RCF Reims-Ardenne à 18h39. Place à la météo désormais avec notre stagiaire à la rédaction, Marion Yernard. On a été fort mal poli, Marion, on ne vous a pas salué en début d'émission. Bonsoir, quel temps dans le ciel en Champagne-Ardenne pour ce jeudi?
Alors on sent bien le printemps arriver sur tout le territoire ce jeudi 14 mars avec 10 degrés dans la matinée et 19 au maximum dans l'après-midi. Mais seulement la moitié de l'est de la région aura la chance de voir le soleil dans l'après-midi. Malheureusement, le reste verra de gros nuages gris et de la brume le matin. N'oublions pas de fêter les Mathildes demain.
Merci Marion, on vous retrouve demain avec de nouvelles tendances météo. Ainsi se referme ce journal de 18-19 en Champagne. Continue dans quelques instants, Fernand Tavares est avec Jean-Pierre Benoît.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Châlons, Charleville-Mézières.
18h40, nous sommes en direct. À suivre tout à l'heure, Monseigneur Étienne Véteux qui évoquera le carême en 2 ou 3 minutes. C'est 3 questions A qui est diffusé tous les jours, tous les matins. Et puis nous retrouverons également Gérard Thirier à propos d'une conférence autour de la Passion selon saint Matthieu de Bach qui aura lieu dans quelques jours. Ce sera le 23 mars prochain. L'occasion pour nous, Fernand, vous qui êtes journaliste parlementaire, vous qui connaissez par cœur l'Assemblée nationale et le Sénat, vous suivez tous les débats. Il y a eu plusieurs questions qui sont venues à l'ordre du jour. Évidemment, l'Ukraine, vous nous en avez parlé tout à l'heure. Les échanges ont été courtois?
Disons que les échanges ont été relativement courtois. Les propos du Premier ministre Gabriel Attal ont été particulièrement forts, quitte à la fin à diminuer un petit peu le ton, parce qu'il sentait qu'il fallait vraiment récupérer une majorité à la fois à gauche, mais aussi au centre et à droite, ce qui a été in fine le cas. Mais, il y a un mais, en ce moment même, à l'heure où nous parlons, le même débat se déroule dans l'hémicycle du Sénat, et tout à l'heure, à l'issue des questions au gouvernement du Sénat, le président Retailleau, président du groupe LR à la Haute Assemblée, a dit cette petite phrase, qui n'a pas été prononcée hier à l'Assemblée nationale, mais peut-être que les lendemains expliquent cela. Nous soutenons le peuple ukrainien. Notre soutien, c'est d'abord au peuple ukrainien et non pas à Emmanuel Macron. C'est-à-dire que derrière tout cela, il y a évidemment un soupçon de récupération politique. Alors les phrases du Premier ministre sont relativement fortes. Je vous en cite simplement quelques-unes. Ce que fait la Russie à l'Ukraine, c'est une déclaration de guerre à nos valeurs. La Russie pratique la politique de la terre brûlée. C'est une guerre barbare. On dénonce l'enlèvement d'enfants ukrainiens pour les russéifier en quelque sorte. C'est un chantage russe destiné à diviser l'Europe. Mais l'Europe doit être puissante pour ne pas diviser. Alors évidemment, derrière tout cela, lorsqu'on parle d'Europe, on s'imagine très bien que du côté de la Russie, on est au courant que bientôt, ce sont les élections européennes. Et derrière les propos qui sont tenus en France, la Russie, le Kremlin en particulier, réagit, et réagit très, très, très violemment. Par exemple, l'ancien président russe, M. Medvedev, a dit ceci. Sachant que Emmanuel Macron allait bientôt venir à Kiev, je n'ose même pas dire les mots particulièrement crus qu'il a dit, mais en gros, il ferait bien de faire attention parce que ce qui risque de lui arriver là-bas risque de provoquer en lui un certain nombre de désagréments. Oui, je suis très diplomate pour cela.
Vous êtes très diplomate.
Néanmoins, du côté de Poutine, il y a autre chose qui est tombée cet après-midi. Une nouvelle fois, il l'avait déjà dit la semaine dernière, il dit que ses armes nucléaires sont les plus fortes et que de toute façon, il est même prêt à aller jusque-là. Alors ce sont peut-être des mots, c'est de l'escalade verbale, comme on dit. Néanmoins, le peuple français, lorsqu'on le sonde aujourd'hui, il est très inquiet, même si à l'Assemblée nationale et même si au Sénat, le vote en faveur du peuple ukrainien sera très majoritaire, d'accord. L'inquiétude, en entendant les propos de la Russie, gagne le peuple français. Alors, demain soir, le président de la République va parler. Pour dire quoi? Est-ce qu'il va parler de la Russie uniquement ou d'autres sujets comme la fin de vie? On ne sait pas. Néanmoins, la proximité des élections européennes interroge partout. Elle interroge partout. Pourquoi? Parce que, avec les cyberattaques dont on a parlé là ces dernières heures, qui viennent, semble-t-il, c'est confirmé maintenant, de soutien russe, pour ne pas dire de la Russie, stricto sensu, ces cyberattaques attaquent tous les gouvernements et tous les ministères français, avec des conséquences particulièrement graves. Aujourd'hui, à l'Assemblée et au Sénat, on a dit que on mettait les moyens pour essayer de contrer tout cela. Néanmoins, c'est pas très rassurant parce que ces derniers mois, il y a eu d'autres attaques de cyber, d'autres cyberattaques dans les hôpitaux, dans le monde industriel, etc. Donc, ça pose un certain nombre de problèmes. Et c'est plus un problème de gauche, droite. On sent que il y a à la fois un sentiment d'aide, de soutien au peuple ukrainien, ça c'est vrai. D'un autre côté, tout le monde est inquiet parce qu'on ne sait pas ce qui peut advenir d'un coup de tête russe. Alors tout cela, on dit que c'est pour faire du bruit, c'est pour faire peur, qu'un jour ou l'autre, il faudra négocier. On n'en est pas là, du moins verbalement.
On aura bien sûr l'occasion d'en reparler. Il nous reste à peu près deux minutes et demie. Vous aviez d'autres sujets, Fernand, ce soir ?
Eh oui, parce que Catherine Vautrin, qu'on connaît bien, est montée au créneau, non seulement à l'Assemblée nationale, mais aussi cet après-midi au Sénat, pour parler du projet de loi sur la fin de vie. On sent là aussi que l'on marche sur des œufs, parce que c'est quelque chose qui, vous en avez parlé d'ailleurs à RCF,
avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort hier.
Voilà, oui. le monde religieux. Alors, aujourd'hui, que dit Catherine Vautrin ? Elle dit, bon, le droit à mourir, la fin de vie, oui, mais. Oui, mais quoi ? Alors, il y a tellement de conditions.
Il y a beaucoup de mais maintenant, peut-être.
C'est sous condition. Ça a été dit textuellement. La ministre a dit, action active à mourir, sous condition. Sous condition de respecter le droit de mourir dans la liberté. Il faut que la liberté s'exprime aussi du côté des soignants et il faut que celui qui souhaite mourir puisse le dire intelligemment et le dire au moment où il n'en peut plus.
On aura l'occasion, bien sûr, Fernand.
Rendez-vous d'ailleurs pour le projet de loi le 27 mai, mais avant, ça doit passer sous les fourches codines du Conseil d'État.
On aura l'occasion, bien sûr, d'y revenir. Hier, nous avions en direct l'archevêque de Reims, qui est aussi président de la Conférence des évêques de France. Il avait alerté, il avait dit sa tristesse, d'ailleurs, parce que pour lui, adjoindre au terme fraternité, loi de fraternité, l'aide à mourir ou le suicide assisté et l'euthanasie, ça n'était pas tout à fait forcément compatible. Et puis, il avait mis l'accent sur les personnes qui ne savaient pas exactement, ça pouvait leur donner des idées, ils ne souffrent pas forcément, mais il dit, si on est à la charge de famille, eh bien il faut peut-être mieux disparaître. Donc il y a beaucoup de questions, on fera des débats, Fernand, sur cette antenne, sur cette question.
Il faut penser au renforcement des soins palliatifs, déjà depuis des mois et des mois,
il y a quoi faire. Il y a pratiquement rien en France sur cette question, hein, et il faut beaucoup insister sur ce sujet. On avait fait toute une émission avec le docteur Picavé il y a quelques temps. On aura l'occasion, bien sûr, d'y revenir parce que c'est une lourde question qu'on ne peut pas traiter en 30 secondes. Merci Fernand.
Et apporter la preuve du discernement.
Les dérapages sont toujours possibles. Donc la prudence, la plus que la prudence et de rigueur. On verra bien ce qui se passe à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est l'occasion pour nous tout de suite de retrouver Monseigneur Étienne Véteux pour parler du carême.
Monseigneur Étienne Véteux, bonjour.
Bonjour Alexis.
Merci d'être avec nous pour répondre à cette question que l'on pose à tous les prêtres, les religieuses, les religieux du diocèse de Reims et les Ardennes que l'on rencontre pendant ce temps du carême. Que représente le carême pour vous, Monseigneur Étienne Véteux ?
Alors, je pense que pour beaucoup de gens, le carême, c'est surtout un moment de pénitence, un moment d'effort. Mais je dirais que pour moi, le premier sens et le plus important, c'est que c'est la préparation de Pâques et cette montée vers la célébration de la Passion et la Résurrection du Christ, l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité, notre salut.
Cette préparation à Pâques, vous y êtes d'ailleurs investi à l'intérieur même du diocèse de Reims et des Ardennes, Monseigneur.
Oui, un événement très important, un aspect très important, c'est l'accompagnement des catéchumènes qui vont être baptisés, eux, à la vigile de Pâques et qui vivent très très concrètement par différentes étapes, l'appel décisif, les scrutins, ce cheminement. Et c'est magnifique de voir des personnes qui passent par ces étapes pour vivre finalement la victoire de la résurrection.
Monseigneur Étienne Véteux, comment vivez-vous, vous, ce temps fort du calendrier chrétien qui est le carême ?
Je dirais que la dimension la plus personnelle, peut-être, c'est pour me préparer à la Passion et à la Résurrection, c'est de soigner ma prière, quelques lectures spirituelles, et j'ai toujours l'habitude de prendre un petit moment de retraite pendant le carême. La semaine dernière, je suis allé à Igny pour 48 heures, c'est bref, mais ça permet de se retirer et d'écouter le Seigneur et de retrouver des forces spirituelles.
Le fait justement de se retirer quelques heures comme ça, quelques jours, et de faire silence, c'est aussi un temps important, Monseigneur.
Le Dieu des Juifs et des Chrétiens est un Dieu qui parle. C'est une chance extraordinaire qui parle, on a besoin d'écouter. Et les retraites, ça sert à ça. Et de fait, j'ai l'impression d'être ressorti avec plus de lumière et une orientation pour les semaines suivantes.
On sait que le temps du carême est souvent associé à un temps, comme vous l'avez dit, d'effort, parfois même on peut dire de privation, pour consacrer du temps à d'autres choses, à d'autres personnes, à d'autres activités. Est-ce que vous-même, Monseigneur, vous consentez à faire quelques efforts particuliers ?
Bien sûr. L'effort que j'ai choisi de faire cette année, c'est plus d'internet après le dîner. En fait, je me rendais compte que, surtout avec toutes les situations de guerre actuelles, ça m'arrivait assez souvent de commencer à regarder les nouvelles le soir, et puis d'un journal à l'autre. Après, on essaye de chercher un renseignement sur Wikipédia, connaître le contexte. Et puis, ce qui devait être 5-10 minutes est devenu une demi-heure facilement. Et je vois que, déjà, ça donne une immense liberté de savoir que je vais avoir une soirée où je vais être en contact, soit avec d'autres personnes, du coup j'appelle quelques personnes, soit une lecture plus profonde, mais une vraie liberté.
Avant de se quitter, Monseigneur, une question, puisque vous parlez de cet effort en particulier. Est-ce que vous êtes un évêque « geek » entre guillemets ?
Je pense que je dirais que je suis geek à peu près en proportion de mon âge.
Merci, Monseigneur Étienne Véteux, d'avoir été avec nous. Vous êtes encore très jeune, il n'y a aucun souci là-dessus. On vous souhaite un bon carême et dans quelques jours, une très bonne fête de jubilaté, notamment, qui est organisée dans le diocèse de Reims et des Ardennes.
Merci Alexis, merci à tous.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
18h50, nous sommes en direct, on termine cette émission en prenant la direction des Ardennes avec quelqu'un qu'on connaît bien, un musicien de talent exceptionnel, il s'appelle Gérard Thiriet, il nous annonce un événement, il était en studio avec Alexis Claudretz.
Notre invité en studio est Gérard Thiriet, bonjour Gérard.
Bonjour.
Professeur au Conservatoire Musique et Danse d'Ardennes Métropole et avec nous pour nous présenter deux conférences exceptionnelles. De quoi s'agit-il Gérard Thiriet ?
Il s'agit d'une explication, on pourrait presque dire, ou d'une approche, d'une entrée dans cette œuvre d'art qu'a écrite Bach au XVIIIe siècle et qui s'appelle « La Passion selon saint Matthieu ».
Cette œuvre d'art, pour présenter le contexte à nos auditeurs sur RCF, si on essaie de la décrypter, de la présenter, qu'est-ce que l'on doit en savoir ?
C'est que c'est une œuvre qui est très très longue. Elle dure 3-4 heures. À l'époque, il y avait deux parties, il y a toujours deux parties, mais à l'époque, les deux parties étaient séparées au milieu par le sermon et l'ensemble durait 4-5 heures. C'est vraiment une œuvre magistrale, énorme, avec deux chœurs, deux orchestres, des solistes. C'est vraiment une œuvre magistrale.
Et vous, vous allez prendre le temps le vendredi 22 mars à l'auditorium du Conservatoire de Charleville-Mézières de 19h à 21h et le samedi 23 mars à l'amphithéâtre Pierre Mendès France à Sedan de 10h à midi de décrypter cette œuvre d'art. 2 heures, c'est peu. Ensemble sur RCF, on n'a que 8 minutes. C'est encore moins.
Oui, oui, effectivement, c'est peu et je vais le dire dès le début de ma conférence, le but n'est pas de faire une analyse exhaustive. Mon but, c'est de présenter aux auditeurs la musique de manière simple, d'où l'intitulé de mes conférences qui sont « La musique à votre portée » pour permettre à tout un chacun, même celui qui ne comprend rien à la musique, de venir écouter et de découvrir une œuvre et en fait d'essayer de comprendre par quelques petits trucs comment ça marche.
D'ailleurs, si on vient par curiosité, l'entrée est gratuite, c'est l'occasion. On peut même venir, pourquoi pas, le vendredi à Charleville-Mézières, à l'auditorium du conservatoire de 19h à 21h. Or, on peut revenir le samedi à l'amphithéâtre de Sedan si, entre-temps, pendant la nuit, des questions ont émergé, pourquoi pas. Ça peut être cette idée. Et puis nous, on va tenter sur RCF, si vous voulez bien, Gérard Thiriet, de donner la musique à portée de nos auditeurs avec des extraits que vous avez sélectionnés et un premier extrait que l'on peut écouter en quelques secondes et puis que vous allez commenter, si vous le voulez bien. Le premier extrait, c'est le chœur d'ouverture. Gérard Thiriet, c'est juste un extrait que l'on propose à nous, aux auditeurs de RCF, mais qu'est-ce que l'on doit savoir sur ce chœur d'ouverture qui est un des premiers extraits que vous nous proposez aujourd'hui ?
Ce qu'il faut savoir, c'est que la Passion selon saint Matthieu, ça raconte l'histoire des derniers moments de la vie du Christ. Pourquoi saint Matthieu ? Parce que Jean-Sébastien Bach s'est appuyé textuellement sur l'évangile de saint Matthieu. Donc on va trouver tous les textes de Matthieu sur cette période de la fin de la vie du Christ. Mais Bach a été beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il a ajouté des choses en plus par rapport à ce qu'on faisait d'habitude. Il a inséré des poèmes, des textes qui vont demander un peu de méditation ou de participation des fidèles à seule fin de rentrer plus dans cette histoire. Et le cœur d'ouverture n'est pas basé sur des textes de saint Matthieu, mais de son ami poète Picander, qui, lui, a écrit des textes poétiques pour mettre en condition, pour rentrer dedans. Et ce premier cœur se situe dans ce cadre-là. Donc c'est un texte qui est basé... Alors celui-là n'est pas trop méditatif, il est plutôt incitatif. C'est-à-dire que, voilà, les gens vont dire « Regardez, regardez, venez, venez !» Alors nous, on a envie de venir. Vous voyez, c'est comme un appel à venir à l'office et à venir participer de manière vivante à cette passion plutôt que de manière passive à écouter un concert. Avec des questions-réponses. « Venez, venez, regardez, mais quoi ?» Alors il y a un cœur 1 qui va dire « Venez, venez !» Le cœur 2, il va dire « Quoi ?» Alors nous, on a envie de répondre « Ben, sa patience, toujours. Il est patient, Dieu est patient. » Et d'autres choses. Mais regardez où ? Alors on va regarder dans quelle direction il faut regarder, etc. C'est quelque chose qui est très, très vivant.
C'est une sorte de cheminement que nous propose à travers cette œuvre Jean-Sébastien Bach. Et c'est ce que vous aussi, vous allez proposer, on imagine, lors de ces conférences. C'est de cheminer avec le public qui sera présent et de lui expliquer comment a été construite cette œuvre d'art.
Oui, d'une part, la construction générale, on en parlera bien sûr, mais c'est une œuvre tellement complexe que c'est difficile d'en faire le tour, donc on va faire plutôt des petits zooms, et des petits éclairages sur certains passages, et où on va montrer comment Bach magnifie le texte, l'enrichit, et comment musicalement il traduit profondément le texte.
Peut-être que c'est ce que l'on peut retrouver dans le deuxième extrait, la chorale numéro 44. Gérard Thirier, encore une fois, analyse de cet extrait que l'on vient d'entendre.
Alors cet extrait, ce n'est pas la chorale, c'est le choral. Il n'y a pas de E au bout. La chorale, c'est celle qui chante. Et le choral, c'est une forme musicale qui est issue directement de Luther et du protestantisme. Donc je pense que vous êtes tous plus ou moins au courant qu'au XVIe siècle, il y a eu une sorte de séparation entre l'Église catholique et les protestants avec Luther. Et l'idée de Luther, c'était de faire participer le public, les fidèles, plus avant. Donc, avec des textes en allemand, il a traduit la Bible en allemand et il a fait énormément de musique très simple pour que l'assemblée chante en allemand. Et donc là, il y a tout un corpus en Allemagne, c'est des centaines de chorales que tout le public connaît, tous les fidèles connaissent et qui résonnent en eux. Avec des mélodies très simples, adaptées à une grande assemblée qui n'est pas forcément un virtuose de la musique. Et Bach s'est saisi également de ces chorales pour deuxième insertion possible. Les textes poétiques sont une première insertion, deuxième insertion possible. Ce sont ces chorales qui sont basées sur des mélodies, mais dont les paroles peuvent changer. Et donc, tous les Allemands connaissaient l'original, en quelque sorte. Et si Bach reprend un choral avec d'autres textes, il va y avoir une double résonance en eux et qui va permettre de mieux appréhender la situation. Par exemple, ce choral, avec ce fameux thème que l'on connaît, c'est presque le thème de la Passion, ben celui-là, on l'a plusieurs fois dans la Passion, mais avec des textes différents et des harmonisations différentes. Alors les textes différents, ici, c'est « Confie ton chemin » et « Ce qui trouble ton cœur », etc. Donc on est sur la confiance, vous avez entendu, c'est une musique qui est paisible parce qu'il est basé sur la confiance et c'est situé à un moment précis. Par contre, on va l'avoir à un autre moment où là, c'est juste après la mort de Jésus, il y aura d'autres paroles et une autre harmonisation. C'est-à-dire que Bach va inventer les trois voies d'accompagnement par rapport à cette mélodie. Et alors, ça peut être soit paisible, comme on vient de l'entendre, ou soit ce sera beaucoup plus torturé.
On aura plaisir à découvrir d'autres facettes de Bach, ses passions selon saint Matthieu. Sinon, on se rend à vos conférences, évidemment, Gérard Thirier. Vous qui êtes professeur au Conservatoire Musique et Danse d'Ardennes Métropole, les rendez-vous, c'est le vendredi 22 mars à l'auditorium du Conservatoire de Charleville-Mézières de 19h à 21h et à l'amphithéâtre Pierre Mendès France de Sedan le samedi 23 mars de 10h à midi. Vous le savez, sur l'antenne, le temps passe toujours très vite. Malheureusement, on devra s'arrêter là pour les auditeurs de RCF, mais on les invite vivement à vous rejoindre à ces conférences dans les Ardennes. entrée gratuite. S'il y avait un mot pour qu'ils viennent, qu'est-ce que vous leur diriez?
C'est une des œuvres majeures de toute notre civilisation occidentale. C'est magnifique.
Voilà, c'était le mot de la fin. Merci Gérard Thiriet d'être passé par nos studios. À très bientôt et on vous souhaite plein de monde les 22 et 23 mars.
Merci à vous.
Décidément, Gérard Thiriet nous donne envie d'aller à Sedan et d'aller d'abord à Charleville-Mézières les 22 et 23 mars. On en reparle samedi dans le magazine du week-end et au cours de la semaine prochaine. Merci à Fernand Tavares d'avoir été avec nous.
Merci
le journal
vous,
national dans une poignée de secondes puisqu'il est pratiquement 19h. Bonne soirée, à bientôt.